Vous me demandez ce que c'est qu'un corps ?
Ouais.
Ah bah dites donc, dès le matin.
Il n'y a que le matin qu'on peut poser cette question.
Mais c'est très bien. Ou alors,
le soir, ce serait tragique.
Très tard dans la nuit, alors.
France Inter. Le best-of. Augustin Trapenard.
Moi, pour moi, le corps de celui des femmes,
Yannick Enel,
c'est quelque chose qui a l'air d'apparaître, mais qui, au contraire, se dissimule dans quelque chose de plus subtil. Et c'est d'abord de la voix. J'associe l'écriture à quelque chose de féminin, c'est-à-dire à quelque chose que je n'ai pas, que je ne possède pas, que je ne peux pas posséder. J'ai toujours eu une femme dans ma tête, pour le dire comme Freud, et écrire pour moi c'est tendre vers cette femme qui peut-être n'existe pas, ou c'est toutes les femmes, je ne sais pas, ou c'est la femme aimée. Enfin.
Bonjour Bruce Weber.
Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts à l'université de Denison dans l'Ohio, j'avais un prof qui disait, ce qui est intéressant quand on est un homme, bon, vous êtes pour la plupart des hommes dans la classe là, mais c'est qu'en vous, il y a un peu de femme. Cette idée m'a beaucoup plu. Du reste, j'essaye de vivre en pensant à ça.
Roméo Elvis.
Il y a toujours beaucoup de virilité dans le rap et qu'il y en a même un peu trop, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire être un homme pour vous ?
Ah, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas encore dire, parce que je ne sais pas si je suis encore un homme à l'heure qu'il est. Franchement.
Ça s'apprend peut-être.
Ouais, c'est ça, c'est apprendre. Hein.
Yeah, very much so. Ah oui, une question sujette à polémique, comme vous dites. Qui est-ce qui est homme ? Qui est-ce qui est femme ? Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu faire des photos de beaucoup de transgenres. C'était une immense campagne et les gens étaient absolument incroyables. C'était un couple, un jeune homme, une jeune femme qui sortaient ensemble. Et ils ont tous les deux décidé de changer de genre. Et ils ont continué à sortir ensemble, mais ils avaient changé de genre. Vous voyez ? À la fac, tout le monde se moquait d'elle en permanence. Un beau jour, elle n'en pouvait plus. Elle a parlé devant toute la classe. Et quand elle a fini son propos, tous les étudiants, qu'ils soient joueurs de foot ou pom-pom girl, étaient en pleurs. Ils l'ont prise dans leurs bras et ils l'ont acceptée pour ce qu'elle était.
David Fuentinos. Bah, ça me touche beaucoup quand vous parlez de lien et d'humain finalement, parce que pour moi l'intelligence c'est davantage lié à l'émotion, l'intelligence émotionnelle, les rapports humains qu'au savoir ou à la culture ou à l'excès d'informations.
C'est à Robert Mitchum, un homme que beaucoup ont considéré comme l'incarnation de la virilité, que vous vous êtes intéressé, Bruce.
Bien, ça vient de cette idée, de cette doxa, selon laquelle l'homme doit être à la hauteur des attentes qu'on projette sur lui. Robert Mitchum, c'est un très bon exemple de cela. Parce qu'une des raisons pour laquelle il était si charmant et si intéressant, c'est qu'il était astucieux, intelligent, très cultivé. Il écrivait de la poésie, il chantait, il faisait de la musique. Et d'une certaine façon, il y avait une douceur en lui. Et c'est ça qui le rendait si attirant.
Gérard Darmon. Donc cette alchimie qui se fait entre mon cerveau, ma sensibilité, ma voix et le texte de l'auteur, il est là mon métier. Ma passion, elle est là.
David Fuentinos. Charlotte, c'est sûrement le livre le plus important à mes yeux, ou ce que j'ai vécu de plus important, parce que j'étais totalement animé par l'admiration et la passion pour cette artiste allemande qui était de plus en plus oubliée. Et c'est vrai que la publication de mon livre était animée par un désir que les gens qui allaient lire ce livre allaient découvrir cette femme, non seulement ce génie de la peinture, mais aussi un exemple très très important de courage qui va chercher au plus profond d'elle-même la beauté, l'intelligence, la culture alors qu'elle est au bord de la souffrance et du ravage intérieur.
Dure fin de campagne pour Simone Veil. Hier soir, elle n'a guère pu parler de l'Europe. Les deux réunions débat qu'elle devait tenir à Paris ont en effet été perturbées par des commandos d'extrême droite du Front National de Jean-Marie Le Pen.
Et les choses n'ont pas vraiment bougé parce que cette femme, cette dame qui se met en face de cette cohorte de d'insultes et de d'antisémites et de fascistes en réalité, elle leur dit droit dans les yeux, vous ne me faites pas peur. Et vous êtes DSS au petit pied. Je serai là. Et DSS qui est sous-entendu, derrière moi, il y a tous les gens, tout le monde, tous ceux que vous insultez. Je suis là. Le symbole que vous voulez détruire est indestructible. Il y a une frustration quand on reçoit l'insulte. Et en même temps, c'est une façon de se, comme vous l'avez dit très, très justement, de se définir. Et une façon aussi de garder ses repères. Parce que la première tentation quand on est insulté, c'est de répondre. Et donc ça nous permet de garder le contrôle, de se reprendre, si on ne répond pas tout de suite à l'insulte. Mais ça laisse des traces, C'est des petites cicatrices, des petites griffures comme ça.
Ah, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit avancer dans la musique contemporaine. Surtout en termes d'actualité, c'est quelque chose dont on se détache de plus en plus, dont les rappeurs se détachent de plus en plus. Et l'actualité la plus criante, le truc le plus urgent, je pense, c'est l'écologie, quoi.
Alors avant toute chose, on en fait quoi de cette bouteille en plastique qui est devant moi, que je viens de décrire?
On l'a fini parce qu'il y a de l'eau dedans pour pas non plus gaspiller l'eau. Et ensuite, on la recycle et on essaie de plus utiliser de bouteilles en plastique et de se munir d'une gourde, par exemple.
Comme celle qui est devant vous, une gourde noire?
Totalement, une gourde noire. En plus, c'est élégant, c'est discret. Enfin, disons qu'on nous écoute, nous, les influenceurs, ouais, parce que ça fait des articles.
Mais les jeunes?
Et les jeunes, justement, je pense qu'il y a une réaction qui est en train de se mettre en place. Elle est minime par rapport à ce qu'il faut faire comme effort, mais il y a des écoles qui commencent à réagir aux revendications des élèves.
Donc. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one, shining so sincere. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine that you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I'm feeling 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was born when we held hands. Sunny one, so true, I love you.
Ce que je trouve beau, c'est le moment où tout chavire.
Yannick
c'est
Hennel.
Le moment où le vertige me remplace, où je ne suis plus là pour contrôler quoi que ce soit, c'est l'ivresse. Voilà. La beauté n'a même pas besoin d'être étalée ni exprimée. Enfin, quand le Caravage peint un Bacchus complètement ivre qui vous tend sa coupe de vin, ou quand il peint le Christ en train d'être arrêté par des soldats sur le mont des Oliviers, il s'agit de cette grande chose, enfin, qui peut sauver le monde, enfin, mais il s'agit de quelque chose qui est entièrement intériorisé, qui est d'une immense violence, et qui est la beauté.
Pour moi, ce que j'appelle la beauté, c'est finalement une façon de rendre la vie dense et intense. C'est tout ça. Peu importe. Il n'y a pas de définition de la beauté. Chacun possède sa propre définition à la beauté. Mais en tout cas, c'est une façon de ressentir peut-être d'une manière plus physique les sensations. Ou quelque chose qui fait qu'on ressent la densité des jours. C'est vrai que quand on est à l'hôpital, au bord de la mort, écouter le Requiem de Mozart, c'est un tout petit peu morbide. Et pourtant, paradoxalement, j'en ai un souvenir de quelque chose qui m'a envahi totalement, d'une manière presque religieuse. Et l'apparition de mes personnages, c'est toujours une aventure différente. Parfois, je les rencontre physiquement, je les ressens. Et puis, d'autres fois, ce sont davantage des sensations. Là, pour mon dernier roman, c'est vrai que Mathilde, c'est plutôt la sensation de sa souffrance. Être en empathie totale, parce qu'on peut pas écrire si on vit pas avec ces personnages, si on les ressent pas, si on les comprend pas d'une manière organique, si j'ose dire. Et en même temps, j'arrive tout à fait à avoir des respirations de ça. C'est ce qui me maintient, en tout cas qui me permet de ne pas sombrer dans la folie. Quoi. Donc à un moment, si vous avez besoin de moi pour vous éduquer sentimentalement, laissez tout de suite tomber, quoi.
Yannick Hennel.
La vraie vie, ce serait peut-être indépendamment de l'aventure qui se dessine dans ces mots-là, c'est la disponibilité, se rendre disponible, fabriquer sa vie pour arriver à cette liberté libre dont parlait Rimbaud. C'est pas si évident, c'est de moins en moins évident.
C'est de plus en plus rare.
Ouais. Comment faire pour se rendre disponible, pour désactiver les emplois du temps, voilà, pour avoir des journées, des nuits où on peut... ne rien, non seulement ne rien faire, mais être tout entier à ce rien. Mais en tous les cas, cette spiritualité, une spiritualité peut-être athée, c'est le cœur même de ce qui nous mène. Mais pour moi, l'anarchie, c'est pas la violence tous les jours, c'est pas le sang qui coule dans les rues. L'anarchie, c'est une disposition intime, personnelle, c'est une façon d'aimer le monde différemment.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus anarchique chez vous?
La solitude.
Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Je prends rendez-vous avec le diable. Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Je prends rendez-vous avec le diable. Le chiffre ramène trop de faux, le shit amène autre chose qu'une cigarette. Tu cherches tes amis dans la foule et si t'es tout seul, tu disparais. Le diable se déguise, il est beau dans la forme, dans les faits, mais dans le fond, il te nique ta mère. Il te nique ta mère. Combien ça coûte si je veux revivre 10 piges en arrière pendant une semaine sans m'arrêter? Les souvenirs dans ma tête brûlent comme un petit bout de teute. Y'a des choses qui reviennent. Si je fais un petit effort, je peux me rappeler d'une ou deux blagues de Toto. Je me rappelle aussi d'une petite sœur qui bossait comme une zinzin sur son piano, avant d'être encore plus connue que Vianney. Et je me rappelle pas des galères si je fais un effort. Et si je pousse encore un peu, j'oublierai même mes défauts. Eh, combien d'argent ça coûte? Manger la tarte du succès et vomir en crachant sa croûte. Je suis trop queuse, heureusement que j'ai une grosse queue. Ah, pourquoi je dis ça sur France Inter, moi? Jeune puceau provocateur depuis l'époque l'internat. Je me rappelle, j'étais très nul au foot, mais j'adorais ça. Alors j'ai joué sur le côté pour devenir meilleur pendant toute mon adolescence. Aujourd'hui j'ai pas le niveau de Max meilleur, mais je te prends en dribble et tu finis dans la mauvaise salle. Je me souviens aussi d'elle quand j'avais 19 piges. Aucun contact à l'époque, timide et touché par les drogues. C'est devenu la femme de ma vie depuis le jour où elle fut validée par mes potes. Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Je prends rendez-vous avec le diable. Combien ça coûte pour garder toute la famille à mes côtés, cher? Je prends rendez-vous avec le diable. Je prends rendez-vous avec le diable.
Mais il n'y a que les mots qui nous invitent à cet irreprésentable-là. Le coup de foudre, par exemple, que ce soit un coup de foudre pour quelqu'un ou pour un tableau, moi c'est le Caravage, et c'est un véritable coup de foudre. Le coup de foudre, c'est ce qui nous coupe la parole. Mmh. Voilà, on est dans ce vide dont vous parlez, et pourtant ce vide n'est pas un vide dépréciatif ou dépressif. C'est précisément, je dirais, c'est quand la parole se met à nu. Eh ben, il y a ce silence-là. Quand enfin on est arrivé, je sais pas, les grands mystiques, ou Blaise Pascal, ça devait être ça, au bord extrême de l'écriture, de la parole, de l'expression, il y a ce beau silence.